VOA Afrique, les infos. À Washington, Camille Grosdidier.
Bonsoir. Le président Barack Obama vient de prononcer son discours tant attendu au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Monsieur Obama a parlé de ses origines africaines et de ce qu'il a appris pendant ses visites en Afrique, notamment l'importance du respect de la dignité de l'être humain. D'autres précisions avec Jean-Roger Bion.
Le président Obama a reconnu qu'il reste des poches de pauvreté en Afrique et qu'à côté des centres d'innovation, il y a des bidonvilles. Mais l'espoir demeure, la tâche la plus urgente, a-t-il dit, est de créer des opportunités pour la prochaine génération. Il a aussi dit que les stéréotypes d'une Afrique embourbée dans la pauvreté et les conflits sont maintenant dépassés. Aujourd'hui, l'Afrique est l'une des régions avec la plus forte croissance économique dans le monde, a-t-il souligné. Ce que les Africains veulent le plus, ce n'est pas l'aide, mais du commerce pour qu'ils se développent par leurs propres moyens, a ajouté le chef de l'exécutif américain. En politique, le président Obama a parlé de la nécessité de démocratisation. Il s'est élevé contre les leaders qui refusent de quitter le pouvoir à la fin de leur mandat et il a évoqué la lutte contre les extrémismes violents. Les États-Unis resteront à côté de l'Afrique dans ses efforts pour combattre le terrorisme et mettre fin au conflit, a souligné le chef de l'exécutif américain.
Les États-Unis continuent d'être profondément préoccupés par la situation précaire qui prévaut au Burundi suite aux récentes élections controversées. Dans un communiqué, l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs, Thomas Perriello, qui revient d'une visite de 3 jours au Burundi, a rappelé que toute violation des droits humains et des droits des citoyens par le gouvernement aura des conséquences sur l'aide américaine. Et par ailleurs, Washington a appelé Bujumbura à la reprise immédiate du dialogue politique, indique le communiqué. Mieux vaut aider l'autorité intergouvernementale sur le développement, l'IGAD, qui regroupe 8 pays d'Afrique de l'Est et qui est chargée de la médiation au Soudan du Sud, entre les partisans du président Salva Kiir et ceux du dirigeant rebelle Riek Machar. Même si l'IGAD n'a pas réussi à faciliter une trêve ou solution au conflit qui déchire le pays, estime l'International Crisis Group, il est impératif que les partenaires internationaux appuient l'organisation pour aider à forger un accord, d'autant qu'en l'absence d'une paix négociée, les pays avoisinants pourraient pâtir davantage de l'impact du conflit. C'est ce qu'avertit l'ONG dans un nouveau rapport. L'International Crisis Group appelle à la mise en place d'un cessez-le-feu dans les 90 jours si les deux parties au conflit n'acceptent pas l'accord de paix avant l'échéance du 17 août fixée par l'IGAD. En République du Congo, c'est demain que s'achève à Brazzaville le dialogue alternatif organisé par l'opposition qui a boycotté celui tenu par le président Denis Sassou Nguesso dans la localité de Sibiti. Les assises de Sibiti ont appelé à des réformes qui, de l'avis de l'opposition, ouvriraient en fait la voie à un autre mandat du chef de l'État congolais. Lutte contre Boko Haram, eh bien l'armée tchadienne poursuit ses opérations contre les djihadistes sur le lac Tchad. L'armée camerounaise a envoyé de son côté des renforts dans l'extrême nord, signale l'agence France Presse. Nicolas Pineau.
Quelques 2000 soldats supplémentaires seront déployés pour lutter contre Boko Haram dans cette région en proie à une vague d'attentats suicides. La radio d'État Cameroon Radio Television n'a pas donné de précision sur la date de ce déploiement. Il portera officiellement à 8500 le nombre de soldats envoyés dans cette région pour combattre les djihadistes de Boko Haram qui y mènent depuis 2 ans des raids meurtriers et des enlèvements. Demain, le président nigérian Muhammadu Buhari se rendra à Yaoundé pour rencontrer son homologue Paul Biya. Le déploiement de la force d'intervention conjointe multinationale avait été annoncé d'ici jeudi. Cette force régionale aura son siège à N'Djamena et doit compter 8700 militaires, policiers et civils fournis par le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin. Lundi, l'Union européenne a exprimé son soutien aux opérations lancées contre Boko Haram. Et par ailleurs, ce mardi, l'armée tchadienne poursuit sa vaste opération sur des îles du lac Tchad, notamment au sud-est de Bagassola, l'une des principales villes tchadiennes du lac.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le secrétaire d'État américain a averti mardi que si les États-Unis rejettent l'accord sur le programme nucléaire de Téhéran, rien n'empêchera alors l'Iran de développer une arme nucléaire. C'est une bonne affaire pour tout le monde, une bonne affaire pour les États-Unis, a déclaré M. Kerry à la Commission des affaires étrangères de la Chambre. Le Congrès américain a entamé son examen du pacte forgé par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Chine et la Russie au terme d'âpres négociations avec l'Iran. Kerry a appelé le Congrès, contrôlé aujourd'hui par les Républicains, à approuver l'accord. Il a dit que si les parlementaires le rejettent, nous aurons gaspillé la meilleure chance dont on dispose pour contrôler le programme nucléaire de l'Iran. En Libye, un tribunal a condamné à mort mardi Saif al-Islam Kadhafi, un fils du défunt dictateur et 8 de ses proches au terme d'un procès sous fond de violence et division politique. Eric Manirakiza.
Le tribunal de Tripoli, ville contrôlée par une coalition de milices, a également condamné à mort le dernier premier ministre de Kadhafi, Baghdadi al-Mahmoudi, et son ancien chef du renseignement, Abdallah Senoussi. En tout, 37 prévenus étaient jugés pour leur rôle dans la répression meurtrière de la révolte qui avait mis fin au régime de Muammar Kadhafi en 2011, signale l'AFP. Saif al-Islam Kadhafi n'a pas assisté à son procès, n'étant pas en main des milices au pouvoir à Tripoli. Il est détenu depuis 2011 à Zintène, au sud-ouest de Tripoli, par d'autres groupes opposés à ceux de Tripoli. La capitale est contrôlée par la coalition de milices Fajr Libya, qui a établi un gouvernement et un parlement non reconnus par la communauté internationale. Depuis la chute du régime Kadhafi, la Libye a sombré dans le chaos. Les seules institutions libyennes reconnues siègent dans l'est du pays.
Le rapport annuel du département d'État américain sur le trafic d'êtres humains souligne que cette activité crée de grosses fortunes à travers le monde en exploitant, surtout au plan sexuel, des millions de personnes. C'est un esclavage moderne qui génère annuellement 150 milliards de dollars, a déclaré le secrétaire d'État américain John Kerry. Il a appelé les gouvernements du monde à renforcer leur législation pour lutter contre ce fléau. Pour une réaction au rapport, Timothée Donangmaï a joint à New York Taina Bien-Aimée, directrice exécutive de la coalition contre la traite des femmes.
Pour nous, à la coalition, ce qui nous perturbe, c'est qu'il y a beaucoup de gouvernements, surtout en Europe et en Australie, comme par exemple l'Allemagne, l'Autriche, la Hollande, où la prostitution est réglementée. Et donc, nous savons qu'il y a un lien direct entre la réglementation de la prostitution, du commerce du sexe, et la traite des femmes et des filles. Et donc, nous aimerions voir un rapport qui adresse cette situation, qui regarde les éléments de trafic et d'exploitation qui ne sont pas vraiment développés dans ce rapport.
Vous avez parlé des pays développés où l'on a légalisé la prostitution. Quelle est la situation dans les autres pays?
Il y a la criminalisation totale, comme aux États-Unis et ailleurs. On ne peut pas ni vendre ni acheter le sexe. Et il y a la légalisation où tout va. Donc les proxénètes, les acheteurs de sexe, tout est légal, quoi. L'industrie du sexe est complètement légale. Et c'est là qu'on voit vraiment une augmentation sérieuse et alarmante de la traite des femmes. Et quand je parle de la traite des femmes, je pense surtout en Allemagne, où la majorité des femmes dans ces maisons closes sont des pays les plus pauvres de l'Europe de l'Est, de l'Afrique, de l'Asie. Et puis après, il y a ce troisième modèle, si vous voulez, qui est le modèle nordique, qu'on appelle nordique parce qu'il a commencé en Suède, où les seules personnes qui sont pénalisées sont les acheteurs de sexe, reconnaissant que ceux qui sont contraints à vendre leur corps le font d'une position de vulnérabilité, de pauvreté, d'inégalité de genre. Et donc, c'est un modèle qui vraiment regarde la traite de façon intelligente, compréhensive, et d'une façon où on voit le bout du tunnel, si vous voulez. Hein, parce que tant qu'il y a légalisation de la prostitution, la traite va augmenter.
Madame Taina, Bien-Aimée, réunion d'urgence mardi des ambassadeurs de l'OTAN pour examiner les menaces pesant sur la Turquie. Dans un communiqué, les responsables ont indiqué qu'ils condamnent fortement les attaques contre la Turquie. Le terrorisme constitue une menace directe sur les membres de l'OTAN et la stabilité internationale. Et le danger n'a pas de frontières, ni de nationalité ou de religion, ont dit les ambassadeurs. Et puis, selon le ministère grec des Finances, les chefs de file des missions de l'Union européenne et du Fonds monétaire international arriveront à Athènes ce mercredi afin de participer aux négociations sur un troisième plan d'aide financière à la Grèce. Et par ailleurs, la Banque centrale européenne a donné son feu vert à la réouverture des marchés boursiers grecs.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.